Bon.
On termine ce matin cette série sur le livre de Daniel, oui. Avant de rentrer dans le temps de l'Avent, avec une série ben justement où on se tourne vers Noël. Mais quand même, un dernier dimanche en compagnie de Daniel, voilà. Fidèle jour après jour.
D'accord, je vais prier.
Merci.
Père, tu nous as donné la Bible, ta sainte parole, sur laquelle nous bâtissons notre vie. Ta parole, c'est notre pain quotidien, et nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir la lire et l'étudier. Ouvre nos oreilles et prépare nos cœurs, qu'on puisse entendre et recevoir l'enseignement que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Je te remercie pour Eric qui a préparé cette prédication. Je te prie qu'elle nous fortifie dans notre foi. Amen.
Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles que j'apporte ce matin. On a un texte un peu difficile. Oui, tu me fais des grands signes, Sonia, tu essayes de dire quelque chose. Alors, un peu plus fort parce qu'on n'entend pas trop, me dit-on. Oui, c'est bien, c'est mieux, voilà. Je disais, je ne sais pas si j'apporte de bonnes nouvelles ce matin. Le texte qu'on va lire est un peu compliqué. Et des fois, on comprend mieux avec un petit dessin. Donc, j'ai demandé à Simon de nous faire un dessin du texte biblique que nous allons lire, qui se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Vous pouvez suivre dans vos Bibles, vous pouvez suivre sur le dessin aussi. Daniel, au chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve, des visions de son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il écrivit le rêve, début du récit. Daniel dit « Dans ma vision nocturne, je vis quatre grands vents du ciel agiter la grande mer. Quatre bêtes énormes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Tandis que je regardais, ses ailes furent arrachées, elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses jambes, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Puis, il y eut une deuxième bête, semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair !» Après cela, j'en vis une autre. Comme un léopard qui avait sur le dos quatre ailes d'oiseau, cette bête avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis une quatrième bête, terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait, elle pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes quand une autre corne, petite, sortit d'entre elles et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle et sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Tandis que je regardais, on installa des trônes et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme un feu flamboyant et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 fois 10 000 se tenaient debout devant lui. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée. Son corps périt et fut livré au feu pour y être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un temps déterminé. Dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver avec les nuées du ciel quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il s'avança vers le vieillard, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas et son royaume ne sera pas détruit. Moi, Daniel, je fus troublé au plus profond de moi. Les visions de mon esprit m'épouvantaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et lui demandais ce qu'il y avait de certain dans tout cela. Il me le dit et m'en fit connaître l'interprétation. Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui se lèveront sur la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront la royauté. Ils posséderont la royauté pour toujours, à tout jamais. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, particulièrement terrible, avec des dents de fer et des griffes de bronze qui mangeaient, pulvérisaient et foulaient aux pieds ceux qui restaient. Et sur les 10 cornes qu'elle avait sur la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus forte que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à ce que le vieillard vienne rendre justice aux saints du Très-Haut et que le temps arrive où les saints soient en possession de la royauté. Il me dit, la quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer les temps et la loi, et les saints lui seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera anéantie et définitivement perdue. La royauté, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne durera toujours et tous les dominateurs le serviront et l'écouteront. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quand on a programmé cette série de prédications sur le livre de Daniel, je redoutais d'arriver à ce texte parce qu'il n'est pas facile, parce qu'il n'est pas plaisant, parce qu'il fait peur, parce qu'il est difficile à comprendre. Mais nous estimions qu'il était nécessaire d'aborder ce texte, parce que quand on regarde le livre de Daniel, il y a 12 chapitres. Il y en a 6, c'est des histoires plutôt sympas, des histoires de fidélité et de délivrance, hein, comme on en a eu jusqu'à présent. Et puis l'autre moitié, les chapitres 7 à 12, c'est des visions comme ça, apocalyptiques et difficiles à comprendre. Et ça n'aurait pas été juste de faire une série sur Daniel sans aborder au moins un de ces textes. Et en fait, c'est très intéressant d'étudier ces textes. Et plus j'ai lu ce texte, plus j'ai vu des détails qui parlent. C'est comme quand on regarde un tableau ou un dessin, et on a été au bénéfice de ce dessin, de ces dessins. fait par Simon, plus on regarde, plus on remarque des détails qui nous font réfléchir. Ce texte pose des questions, immanquablement. Qui sont ces bêtes? Qu'est-ce qu'elles représentent? Et l'autre scène, la deuxième scène, avec le vieillard, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Mais il y a d'autres questions qui sont posées également. À quoi sert cette vision? En quoi est-ce qu'elle est utile? Utile pour Daniel au moment où il la reçoit? En quoi est-elle utile pour nous qui la lisons aujourd'hui, des siècles plus tard? Et puis il y a une chose qui me marque aussi quand je lis ce texte, c'est l'épouvante. L'épouvante que ressent Daniel. Il le dit deux fois qu'il est saisi d'angoisse, d'épouvante de cette vision qu'il a reçue. Il est vraiment troublé et il semble avoir été troublé pendant longtemps. Un mot sur le contexte. Au premier verset, on nous dit que cette vision, Daniel l'a reçue la première année du roi Belshazzar. Si vous vous souvenez, on en a parlé au tout début de la série. Daniel a été emmené en déportation avec plusieurs de ses concitoyens à Babylone par le roi Nabucodonosor. Et il a servi pendant une quarantaine d'années le roi Nabucodonosor. Et ensuite, il y a eu d'autres rois qui se sont succédés. Et Belshazzar, c'est le dernier de ces rois chaldéens. Ce n'est même pas un roi, c'est un régent qui est mis par Nabonide. Et si vous avez lu le livre de Daniel, c'est un texte sur lequel on n'a pas prêché, mais au chapitre 5, on voit Belshazzar qui reçoit un signe qu'il a du mal à interpréter, un truc qui le terrifie. Donc Belshazzar, c'est le chapitre 5. La semaine dernière, on avait le chapitre 6 et Daniel fait un retour en arrière avec ce texte. On peut retenir que Belshazzar, c'est le dernier roi, le dernier intendant chaldéen de Babylone avant la prise de la ville et du royaume par Cyrus, les Mèdes et les Perses. Et pour une fois, alors que avant, dans les 6 premiers chapitres, c'était les rois qui recevaient des rêves, cette fois-ci, c'est Daniel qui reçoit un rêve. Et au lieu que ce soit Daniel qui l'interprète, c'est un ange, enfin c'est un être surnaturel, un être de son rêve qui lui explique ce qu'il veut dire. L'explication, il nous la partage. Les quatre bêtes, quatre royaumes. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça, quatre royaumes. La statue que Nabucodonosor avait vue dans son rêve, statue en quatre matières différentes, l'or, l'argent, le bronze, le fer, avec le fer, avec les pieds même de fer mélangé avec de la terre. Et Michael avait expliqué, c'est Daniel qui l'avait expliqué, mais Michael avait rapporté quatre partie dans la statue, quatre royaumes. Et là, c'est la même chose. Les quatre bêtes, c'est les quatre royaumes. Une façon différente de les voir, avec des détails en plus. Des détails, par exemple, sur le premier royaume dont on nous dit que les ailes ont été enlevées et le cœur humain donné. Et on peut se souvenir, de cette prédication où Nicolas, ou plutôt Nabucodonosor, était venu nous parler de sa chute et que Dieu lui avait parlé et lui avait donné plus d'humanité. Ce premier royaume, c'est Babylone. Ensuite, il y a le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume des Grecs, et le quatrième, les Romains, avec des détails qui vont plus loin dans l'horreur et dans le blasphème. Donc, on retrouve la même chose avec les royaumes qui se succèdent chronologiquement et en même temps, on a l'impression que la chronologie n'est pas linéaire parce que le quatrième, il est condamné, mais les autres restent, alors que dans l'histoire, ils se sont succédés. On se rend compte que là, c'est une autre façon de voir les choses. Et j'ai l'impression que c'est comme si Dieu donnait à voir à Daniel l'envers du décor. quand Dieu parle à Nabucodonosor, quand il parle au roi, il leur montre une belle statue, la gloire du roi et les règnes qui se succèdent, et c'est la façon dont il voit les choses. Mais Daniel, qui a une sensibilité spirituelle, il lui montre une autre façon de voir, l'envers du décor. Et l'envers du décor, elle n'est pas jolie parce que Daniel voit toute l'horreur qu'il y a derrière. Ces bêtes qui font du dégât, qui dévorent de la chair, qui tuent, qui piétinent. Daniel voit toute l'horreur de la puissance humaine et tout ce qu'elle peut faire subir de mauvais. Il y a deux visions dans le texte qu'on a lu. Et c'est marrant parce que l'ange donne l'explication de la première, mais ne donne pas l'explication de la deuxième. Sans doute doit-elle être particulièrement claire, limpide. Qu'en pensez-vous ? Non, pas tant que ça. Il y a un vieillard qui est là. Et ce vieillard, sur son trône, c'est Dieu. Non pas parce qu'il soit vieux et gâteux, mais parce qu'il est là depuis le début. Depuis le commencement. Je vous lis un psaume, le psaume 102. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent de génération en génération. Autrefois, tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tout comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés, mais toi, c'est toi. Tes années ne finiront pas. Dieu, ses années ne finissent pas. Il est là depuis toujours. Et il est là, sur son trône. On le reconnaît à son âge, on le reconnaît à sa pureté, la pureté de ses vêtements, on le reconnaît au feu, aux roues en feu sur le trône. Et si vous êtes un lecteur de la Bible, vous connaissez peut-être le livre d'Ézéchiel, où Ézéchiel a une vision du trône céleste avec des roues de feu. Daniel connaissait ça, et quand il voit les roues, il reconnaît, oui, c'est Dieu. Puis dans cette scène, il y a un jugement. Et ceux qui étaient dans leur groupe de maison cette semaine ont lu ce verset qui m'a particulièrement parlé, Ecclésiaste 3:17, où le sage dit, « Je me suis dit, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. » Il y a un jour où tout sera jugé. Et dans cette vision, c'est ce qui se passe avec les juges qui sont assis à côté du roi. Et ça, je pense que Daniel n'a pas eu trop de mal à le reconnaître parce qu'il a la culture biblique, il connaît Ézéchiel, il connaît l'Ecclésiaste. Par contre, il y a quelqu'un qui s'approche et qui ressemble à un humain. Peut-être que si vous êtes lecteur de la Bible et du Nouveau Testament, vous avez une idée de qui il est. Daniel n'en avait pas. Mais déjà, juste au niveau de Daniel, il y a quelque chose que j'aimerais remarquer. Il est écrit que la domination, la gloire et la royauté lui furent données à ce personnage qui ressemble à un humain, afin que les gens de tous les peuples, de tous les pays, de toutes les langues le servent. Sa domination durera toujours, elle n'aura pas de fin et son royaume ne sera jamais détruit. On avait entendu quelque chose d'un peu pareil au chapitre 2, avec la vision des statues. Au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera toujours. C'est la même chose. C'est la même chose. L'envers du décor, encore une fois. Nabucodonosor a vu cette pierre qui descend de la montagne, qui vient fracasser la statue et couvrir toute la terre. Daniel voit un homme qui va avoir le même règne, qui dure toujours, qui subsistera toujours. Quelqu'un qui ressemble à un humain. Dans d'autres traductions, on dit « comme un fils d'homme ». Peut-être vous vous souvenez que le Fils de l'homme, c'est ainsi que Jésus s'appelle, se nomme lui-même dans les évangiles. Jésus utilise ce terme pour parler de lui. Et quand il est interrogé par Pilate lors de son procès, que Pilate, pas Pilate d'ailleurs, les chefs des Juifs, quand il est interrogé par les chefs des Juifs lors de son procès, qui lui demande s'il est le Christ, le Fils du Dieu béni, il leur répond, c'est moi, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Exactement ce qu'on vient de lire. Ce Fils d'homme qui ressemble à un homme, c'est Jésus. Voilà l'explication de la vision. Pourquoi est-elle aussi épouvantable? Pourquoi Daniel est-il aussi épouvanté et qui reste comme ça, presque prostré pendant plusieurs jours après l'avoir reçu? Cette vision, quand même, elle annonce la délivrance. Et quand l'ange explique pour la première fois ce qu'elle veut dire, il lui dit... Les quatre bêtes, ce sont quatre rois qui se lèveront contre la terre, mais les saints du Très-Haut sauveront la majesté. Ils posséderont la royauté pour toujours. C'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais non, il vit l'épouvante. Et je crois que c'est un peu la même chose que quand on voit certaines choses à la télé. Des films d'horreur, si vous êtes amateur, mais même sans regarder ce genre de film, il y a toujours des films avec des scènes qui nous marquent et on y repense. Et quand ces scènes nous reviennent, elles nous font froid dans le dos. Je pense que c'est un peu pareil. Ce qu'a vu Daniel quand il y repense, ça lui donne encore des frissons. Quelle est l'utilité de cette vision ? Il y a beaucoup d'informations, c'est très fouillé, et j'ai donné des interprétations, mais peut-être que... Bon, et alors ? Qu'est-ce que ça change pour moi ? Qu'est-ce que ça change pour Daniel ? Quelle est l'utilité de cette vision qui finalement dit la même chose qu'au chapitre 2 avec la statue ? Il y a quatre royaumes qui seront détruits par un quatrième qui vient de Dieu et qui durera toujours. Dieu trouve utile de montrer à Daniel l'envers du décor. Je crois qu'elle est utile aussi pour nous de connaître l'envers du décor, ce qui se passe derrière. Parce que c'est ce monde, c'est celui dans lequel nous vivons. Mais Dieu nous révèle ce qui se passe dans les coulisses. Déjà, Dieu révèle qu'il est présent et qu'il règne. Même quand la violence se déchaîne, elle n'atteint pas le trône de Dieu qui reste là, qui reste établi. Et même quand il y a une corne plus petite que les autres, qui se croit plus maligne que les autres, et qui blasphème, qui insulte Dieu, même là, le trône de Dieu n'est pas ébranlé. Il reste solide. Rien ne peut le faire bouger. Rien ne peut l'ébranler. L'histoire se déroule et Dieu viendra juger. Et il viendra mettre fin. Ça arrivera, c'est certain. Le texte nous dit, il fixe une fin à l'action des bêtes. Il y a celle qui va faire ses dégâts pendant... un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3,5. Il y a, quand elle est condamnée, cette bête la plus féroce, les autres peuvent rester pour un temps déterminé et après elles partiront. Dieu fixe la fin. Et lorsque cette fin arrive, les saints régneront, ceux qui sont mis à part, ceux qu'il a choisis, ceux qui lui sont fidèles. Donc ça, c'est une première chose à connaître. Et lorsqu'on vit dans un monde difficile, qu'on voit toute la difficulté, toute la violence, au loin ou au près, il est important de se souvenir que Dieu règne et que rien ne peut ébranler son trône. La deuxième chose, la deuxième utilité, la deuxième chose que vient nous dire cette vision, c'est qu'elle vient parler de l'homme. Elle nous parle de Dieu, mais elle nous parle aussi de l'homme. Et là, les royaumes, ce n'est pas une belle statue brillante, ce n'est pas la gloire, ce sont des bêtes. La bestialité de l'homme est mise en avant. Des bêtes qui s'opposent, qui font du dégât, qui vivent dans la violence. Et ça, mes amis, c'est l'impression qu'on a lorsqu'on vit. C'est l'impression qu'on a quand on regarde les informations. En ce moment, tout particulièrement, on est servi, que ce soit au loin ou au près. Les royaumes sont des bêtes. Je parlais d'utilité et cette vision est utile en ce qu'elle nous aide à tenir. Parce que je crois que lorsqu'on sait que la fin arrive, c'est plus facile de faire un effort pour tenir. Je me souviens, lorsque je travaillais dans l'ingénierie, quand j'étais chef de projet et qu'on m'a formé, on m'a dit, il y a toujours des moments où il y a un coup de bourre, où il faut mettre un effort. Souvenez-vous, vous pouvez demander à votre équipe un effort intense s'il est limité dans le temps. L'homme est capable de fournir des efforts intenses s'ils sont limités. Et on le sait, quand on a une échéance, un projet à livrer, la date d'un examen pour lequel on révise, si on a des difficultés financières, la fin du mois qu'on vise, quand on connaît l'échéance, on arrive mieux à supporter les choses que s'il faut juste enchaîner tout le temps. Et là, Dieu vient encourager en disant qu'il mettra fin aux difficultés, aussi grandes soient-elles. Et en même temps, ce texte vient révéler le cœur de l'homme, je le disais. Le cœur de l'homme qui est bestial. Et la bestialité, elle n'est pas réservée à quatre empires qui ont régné sur l'Antiquité proche-orientale. Aujourd'hui encore, il y a deux guerres particulièrement actives sur lesquelles on est particulièrement documenté, qu'on voit dans les informations, sur lesquelles on voit des massacres, on voit des coups bas, on voit des civils qui sont tués. Les bêtes restent, elles sont là, elles continuent à œuvrer. C'est écrit dans la Bible et on le voit. Est-ce que cette bestialité est réservée aux États, à nos dirigeants? Je crains que non. Les faits divers nous le montrent également. On est servi en France avec des meurtres récents, mais ils ne sont pas nouveaux. On voit aussi des débordements, des forces de l'ordre qui peuvent avoir du mal à se maîtriser, des manifestants de même. Enfin, la violence est partout. Elle est partout et chez les chrétiens également. On vient de parler des violences conjugales et il y a cette prise de conscience quand on a voulu signer la charte que nous ne sommes pas épargnés en tant que chrétiens. En préparant cette prédication, je me suis souvenu de lorsque j'étais étudiant. J'ai un ami, un camarade qui, un soir, s'est fait interpeller par la police. Il n'avait rien fait, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils n'arrivaient pas à attraper le gars qu'ils cherchaient, et comme ils l'ont trouvé, c'est lui qu'ils ont attrapé. Et il m'a raconté qu'il avait eu un interrogatoire particulièrement difficile. Et j'ai appris après que cet interrogatoire avait été mené par un frère en Christ. Ça m'avait vraiment secoué. Les chrétiens ne sont pas épargnés par cette bestialité. Et ne croyons pas que nous soyons mieux. Notre vie d'église est tumultueuse et qui peut se targuer d'avoir eu une attitude toujours exemplaire? Je repense à ce que Paul écrit aux Romains. J'aime ce passage, ça fait partie de ces boussoles. Paul écrit, je le sais, rien de bon n'habite en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Est-ce que ce que je fais est moins grave que ce que font ces bêtes? Il y a sans doute une question d'échelle. Que ferions-nous si nous avions plus de moyens, plus de personnes qui nous obéissent, plus de pouvoir? Je ne suis pas sûr de vouloir connaître la réponse à cette question personnellement. Alors forcément, quand on voit ça, on peut comprendre l'épouvante de Daniel. L'épouvante, elle est double parce qu'il voit toute la violence et il sait qu'elle va continuer, il sait que les temps ne sont pas fixés et il a vu en avance et il sait que toutes ces tortures, tout ça va continuer. Forcément, il y a de quoi en perdre le sommeil. Mais je crois aussi qu'il est épouvanté parce qu'il voit le cœur de l'homme. Et il voit que ce n'est pas avec ses efforts qu'il va pouvoir s'en sortir. Que trop souvent, l'homme se comporte comme une bête. Mais à côté de ça, Dieu règne. Et à côté de ça, Daniel a cette vision glorieuse de Dieu qui est assis sur son trône. Et peut-être, Diera, tu peux remettre le deuxième dessin. Dieu qui règne sur son trône et rien ne peut ébranler son règne. Il contrôle tout jusqu'à la durée des atrocités. Et il y mettra fin le temps venu. En doutez-vous? Depuis Daniel, nous avons de la chance parce que le plan a avancé. Le Fils de l'homme est venu sur la terre. Il s'est fait connaître. Il s'appelle Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, il a marché sur la terre, il a cheminé parmi nous. Il est mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Il a payé la dette de notre bestialité. Et il nous donne son esprit, comme au roi Nabucodonosor, un cœur nouveau qu'il donne à ceux qui le suivent, même quand ils ont du mal à le suivre. Êtes-vous épouvanté? Perdez-vous courage au moment d'entrer dans la période de l'Avent, qui est tard cette année, mais elle arrive. Cette période où nous nous tournons vers l'attente de Jésus-Christ. J'aimerais lire ces versets qu'écrit l'apôtre Pierre. Il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, Comment ne devrions-nous pas vivre ? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments enflammés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Que cette pensée demeure en vous, mes bien-aimés, en cette période. Amen.
Merci Eric pour le message. C'est la fin du culte.